VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mercredi 17 juin sur VOA Afrique, en votre compagnie Nicolas Pinault et Morgane Guiriec. À la une ce soir.
Début des trois jours de deuil national au Tchad après le double attentat qui a fait une trentaine de morts. Idriss Déby promet que son pays ne pliera pas face au terrorisme.
Quand Boko Haram pose un acte, il le revendique. 48 heures après les attentats, le Boko Haram n'a rien dit. Et donc, on se pose bien la question, est-ce que c'est vraiment Boko Haram ?
La France annonce l'ouverture de plus de 10 000 places d'hébergement pour les migrants, alors que la pression migratoire est de plus en plus forte sur les pays européens.
Le secrétaire à la Défense questionné ce mercredi au Congrès sur la stratégie américaine contre le groupe État islamique.
Rencontre ce soir avec l'une des participantes burundaises au programme Yali pour les jeunes leaders africains.
Je serai basée à l'Université de Virginie et j'ai hâte de rencontrer les autres jeunes qui vont y être. J'ai hâte d'apprendre surtout. Notre pays a besoin de leaders et je suis prête à devenir un grand leader ici dans mon pays quand je serai de retour.
Sans oublier vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports. Aucun représentant africain en finale du Mondial des Juniors. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Le Tchad entame aujourd'hui un deuil national de trois jours en hommage aux 33 morts du double attentat suicide qui a frappé la capitale N'Djamena lundi, selon un dernier bilan officiel. Le point avec Jacques Aristide.
Ces trois journées de deuil seront observées sur l'ensemble du territoire national, d'après un décret signé hier soir par le président tchadien que cite l'AFP. Pour Idriss Déby Itno, ces deux attentats commis par les éléments de la secte Boko Haram prouvent que les terroristes et leurs commanditaires sont loin d'abandonner les actes macabres et ignobles et leur plan diabolique de détruire le Tchad. Mais le Tchad, ajoute-t-il, ne se pliera jamais devant un chantage terroriste. Et de prévenir que les forces armées tchadiennes sauront répondre à cet affront de manière appropriée et rapide. Ces attaques simultanées n'ont pas été revendiquées, mais les autorités ont rapidement accusé les islamistes nigérians de Boko Haram d'en être les auteurs. L'armée tchadienne participe en première ligne à une opération militaire régionale visant à chasser le groupe du nord-est du Nigeria.
Dans le nord-est du Nigeria, justement, dans l'état de Borno, l'explosion accidentelle d'une bombe artisanale a fait 13 morts et 53 blessés mardi soir. Selon des miliciens combattant Boko Haram aux côtés de l'armée et cités par l'AFP, l'engin explosif a été ramassé par un des leurs alors qu'ils inspectaient en périphérie de Mondougou, théâtre d'une opération militaire contre les djihadistes.
Et par ailleurs, un camion militaire en route vers le district de Damboa a été frappé lundi par l'explosion d'un engin explosif dissimulé sur le bord de la route par les insurgés. Trois soldats sont morts.
Et dans le sud du Nigeria, environ 70 personnes sont mortes après avoir consommé de l'ogogoro. Ce gin de fabrication artisanale contenait une grande quantité de méthanol, une substance très toxique, ont déclaré les autorités.
Lutte contre Al-Shabaab. Le contingent kényan de l'Union africaine restera en Somalie pour combattre l'organisation djihadiste. C'est ce qu'a réitéré le président kényan Uhuru Kenyatta dans un communiqué de la présidence, il a démenti les spéculations concernant un possible retrait des troupes kényanes de la MISOM en raison des attaques sur le territoire kényan.
Les élections locales d'octobre en République démocratique du Congo semblent fortement compromises après le rejet du projet de loi qui devait en fixer les modalités par un front commun des députés de l'opposition et de la majorité contre ce texte jugé bâclé.
Cette affirmation de l'indépendance des élus survient dans un climat politique tendu à l'approche d'une série de scrutins devant mener à la présidentielle en novembre 2016 et dont la crédibilité est remise en cause par l'opposition mais aussi une partie de la majorité et de la communauté internationale.
Le Mozambique a commémoré aujourd'hui le massacre de Mueda. Il y a 55 ans, le 16 juin 1960, les colons ouvraient le feu sur des paysans qui protestaient pacifiquement contre l'arrestation d'indépendantistes. L'un des épisodes les plus brutaux de la fin de l'Empire portugais qui a déclenché la lutte pour l'indépendance.
En Libye, Human Rights Watch accuse le gouvernement reconnu par la communauté internationale d'avoir recours à la torture dans ses centres de détention dans l'est du pays. D'après l'organisation américaine, les détenus disent avoir été forcés à avouer des crimes graves sous la torture.
En Algérie, un leader de l'opposition critique le président français François Hollande pour avoir salué la grande maîtrise intellectuelle de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika lors de sa récente visite à Alger. La vacance du pouvoir est un fait bien établi et n'a pas besoin d'une expertise étrangère pour la confirmer, a déclaré Ali Benfis lors d'une conférence de presse. Monsieur Bouteflika, 78 ans, est très affaibli depuis qu'il a été victime d'un AVC en 2013.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le Premier ministre palestinien Rami Abdallah a remis aujourd'hui la démission de son gouvernement d'Union nationale en cause de la fracture grandissante entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et les discussions que le Hamas mènerait secrètement avec Israël, ici à Kaba.
Conséquence de cette démission du gouvernement, le président palestinien Mahmoud Abbas a ordonné au Premier ministre Rami Abdallah de former un nouveau gouvernement. D'après un conseiller à la présidence, cité par l'AFP, il doit commencer immédiatement ses consultations avec tous les mouvements palestiniens, y compris avec le Hamas. Cette démission sanctionne l'incapacité d'agir du gouvernement d'union. Celui-ci avait été formé en 2014 pour mettre fin à des années de division, ayant quasiment tourné à la guerre civile en 2007 entre les deux grands rivaux palestiniens, le Fatah laïc et modéré de Mahmoud Abbas, et le Hamas. Ce mouvement islamiste aux commandes de la bande de Gaza a officiellement rejeté tout changement unilatéral de gouvernement auquel il est associé sans le consentement de toutes les parties. Autrement dit, l'organisation refuse la dissolution du gouvernement.
Les ambassadeurs des 28 membres de l'Union européenne ont approuvé par consensus le prolongement des sanctions économiques contre la Russie jusqu'au 31 janvier 2016. La semaine prochaine, les chefs de la diplomatie russe, ukrainien, français et allemand se rencontreront à Paris pour faire le point sur la mise en œuvre des accords de Minsk et la situation dans l'est de l'Ukraine.
Réponse du gouvernement français à la multiplication des campements sauvages de migrants. Paris affirme vouloir créer 10 500 nouvelles places d'hébergement d'ici à 2016.
4 000 pour des demandeurs d'asile, 5 000 pour des étrangers ayant obtenu l'asile et 1 500 pour l'hébergement d'urgence des occupants des campements sauvages qui ont essaimé jusque dans les rues de Paris.
Et le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, juge possible que le régime syrien ne finisse par tomber du fait de l'affaiblissement de ses forces militaires. Par ailleurs, M. Carter, qui était ce matin devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants, selon lui, la lutte contre le groupe État islamique nécessite surtout dans la construction d'un gouvernement irakien fort et inclusif. Nathalie Barge.
Lors de son audition au Congrès sur la stratégie militaire au Moyen-Orient de l'administration Obama, Ashton Carter a déclaré que la lutte contre les djihadistes en Irak implique la construction d'une gouvernance plus efficace, inclusive et multiconfessionnelle. Répondant à une question sur l'envoi de 450 soldats américains sur le terrain pour former et encadrer les troupes irakiennes, le secrétaire à la Défense a dit que « L'efficacité de la mission dépendrait moins du nombre que de l'endroit choisi pour une telle mission. C'est au cœur d'une zone sunnite et je pense que cela fera la différence en matière de performance », a-t-il dit, insistant sur la nécessité de recruter des sunnites. Les 450 soldats que le président Obama veut envoyer en Irak seront basés dans la province d'Anbar, notamment pour soutenir les troupes irakiennes dans la reconquête de la capitale Ramadi.
Sepp Blatter, président démissionnaire, pourrait être entendu dans l'enquête sur 53 cas suspects de blanchiment d'argent à la FIFA, a fait savoir aujourd'hui le procureur de la République suisse. Des précisions avec Eddy Issango.
L'affaire désormais appelée FIFA Gate va de révélation en révélation avec des implications jusque-là insoupçonnées. Selon le procureur suisse Michael Laubert, qui n'exclut pas d'entendre Sepp Blatter, quelques 104 relations d'affaires bancaires sont sous enquête. Les banques ont signalé quelques 54 cas suspects au bureau anti-blanchiment. Pour M. Laubert, elles ont rempli leurs devoirs, mais beaucoup reste à faire.
We are facing a complex investigation with many international implications.
Nous sommes devant une enquête très complexe avec beaucoup d'implications internationales. L'enquête se poursuit et va prendre du temps. Il ne serait pas professionnel de vous communiquer aujourd'hui un calendrier détaillé. Le monde du football doit être patient. De par sa nature, cette enquête prendra plus de temps que les fameuses 90 minutes. L'enquête de la Confédération helvétique a été ouverte suite aux allégations de mauvaise gestion et blanchiment d'argent liées à l'attribution de l'organisation des Coupes du Monde 2018 et 2022, respectivement à la Russie et au Qatar.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et tout de suite, la Minute Écho avec Claire Morin-Gibourg.
Nestlé déçu par le rythme de la croissance africaine. Les propos d'un des patrons du géant de l'agroalimentaire suisse Nestlé ont fait mouche, tant ils sont à contre-courant de l'opinion générale sur le dynamisme du continent africain. Dans une interview au Financial Times, le PDG de la région Afrique équatoriale se déclare déçu par le rythme de l'émergence de la classe moyenne dans différents pays d'Afrique. Nestlé va réduire de 15% ses effectifs en Afrique. Nouveau Boeing pour Ethiopian Airlines. À l'occasion du salon aéronautique du Bourget en France, la compagnie Ethiopian Airlines a acquis 6 longs courriers supplémentaires, des Boeing 787 à l'avionneur américain pour 1,3 milliard de dollars. Ethiopian Airlines avait été la première compagnie africaine à prendre livraison du 787, le dernier né de chez Boeing. Elle en possède aujourd'hui 13. À Abidjan, l'université Félix Fouette-Boigny fait sa révolution numérique. Avec l'aide de la start-up Waller, filiale du groupe français Bolloré, une plateforme interactive permet aux étudiants d'accéder à toutes les informations relatives à leur campus, comme le planning des cours, la médiathèque ou l'agenda des événements. Des espaces de discussion ont aussi été créés pour permettre aux étudiants de communiquer.
Voilà pour cette Minute Écho avec Claire Morin-Gibourg. Parlons à présent de sport avec Timothée Donogmaï. Alors le Mali et le Sénégal qui n'iront pas en finale du mondial des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.
Et non Nico, les deux derniers représentants du continent sont sortis lors des demi-finales du tournoi. Les deux voisins se disputeront la troisième place. Pour une première à ce stade de la compétition, l'apprentissage n'a pas été facile pour les Lionceaux de la Teranga. Sèchement battus 5-0, les Sénégalais n'ont pas pesé bien lourd face au Ori Verde, quintuple champion de la catégorie. Marcos Guilherme a même inscrit un doublé et propulse le Brésil en finale du tournoi. Les jeunes Brésiliens retrouveront la Serbie, qui a eu toutes les peines du monde à battre le Mali. L'aventure s'arrête là pour les Aiglons, battus dans les prolongations par le but du remplaçant Ivan Saponic. Bravo aux deux derniers représentants de l'Afrique dans cette Coupe du Monde Junior. Ils croiseront le fer ce samedi. En jeu, la troisième place du tournoi et la suprématie continentale.
Coupe du Monde féminine au Canada, le Cameroun et le Nigeria l'ont-ils emporté hier ?
Abby Wambach a marqué peu avant la mi-temps et les États-Unis ont battu le Nigeria 1-0 à Vancouver. Les Américaines se qualifient, mais les Nigérianes sont éliminées. Et puis le Cameroun a vaincu la Suisse 2-1 et termine deuxième du groupe C. Cette victoire permet aux Lions d'accéder aux huitièmes de finale où elles affronteront la Chine.
Tim, on reparle du scandale de la FIFA et la CAF qui reconnaît avoir reçu de l'argent du Qatar.
Le Qatar a versé 1,8 million de dollars à la Confédération africaine en janvier 2010 pour pouvoir exposer leur projet de candidature au Mondial 2022. C'est ce que déclare son président Issa Hayatou dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, niant toute corruption. Est-ce une manière d'acheter les voix des Africains ? Réponse de M. Hayatou, non. D'ailleurs, j'ai convoqué immédiatement après le comité exécutif de la CAF pour dire que ce qui s'est passé ne nous engageait en rien. Je n'ai donné aucune consigne et chacun a voté en son âme et conscience.
Victoire de l'Argentine à la Copa América, mais suspension de son entraîneur.
Le sélectionneur de l'Argentine, Gerardo Martino, est suspendu pour un match par la Confédération sud-américaine de football. Martino a été exclu mardi pour contestation au bout d'une demi-heure face à l'Uruguay, alors que l'Argentine menait déjà 1-0 sur un but de Sergio Agüero. Martino ne pourra donc pas s'asseoir sur le banc samedi pour la dernière rencontre du groupe B contre la Jamaïque.
Et Timothée, 40 ans après en basket, les Warriors qui remportent le titre NBA.
Golden State est sacré champion NBA après avoir remporté le match 6 de finale sur le parquet des Cleveland Cavaliers, le score 105-97. Golden State remporte ainsi son premier titre depuis 1975. André Iguodala est sacré MVP de la finale.
Merci beaucoup pour cette page des sports, c'était Timothée Donangmai.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nicolas Pineau et Morgane Guiriec, en votre compagnie, vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place Morgane à la deuxième partie de notre émission.
Nous vous en parlions dans le journal. Les Tchadiens observent un deuil de 3 jours à la suite du double attentat de lundi à N'Djamena, la capitale. Les autorités ont pris diverses mesures visant à renforcer la sécurité, notamment le déploiement des forces de sécurité aux endroits stratégiques, l'interdiction des véhicules aux vitres fumées et du port du Chech et autres niqabs. Toutefois, des questions subsistent de l'avis de certains Tchadiens. Timothée Donangmai a joint N'Djamena Galigatan Gauté, un député de l'opposition.
Dans la communication du Premier ministre, il n'a pas indexé une organisation précise. Il a dit tout simplement que c'est le terrorisme. Donc, on se demande la question, mais c'est qui, c'est quelle filière, même si effectivement l'enquête n'a fait que commencer. En général, quand Boko Haram pose un acte, il le revendique. Nous sommes aujourd'hui 48 heures après les attentats, le Boko Haram n'a rien dit. Et donc on se pose bien la question, est-ce que c'est vraiment Boko Haram? La deuxième question, c'est que bon, le véhicule qui est rentré à l'école de police, le 4x4 vitre fumé, appartiendrait à un collègue de la police, lui-même commerçant de véhicules qu'on appelle vulgairement congelés, hein, les véhicules d'occasion. Donc, on en déduit que la plupart des acteurs sont des Tchadiens. Autrement dit, est-ce que les Tchadiens sont une composante réelle de Boko Haram ou bien ce sont des supporters de Boko Haram? Nous nous posons des questions. Enfin, compte tenu aussi de la réalité dans les institutions de l'État, où l'impunité est très grande, et la corruption ne semble pas être punie. Et autrement dit, l'argent facile peut permettre des agents terroristes de s'acheter n'importe quoi et de réaliser n'importe quel objectif.
Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quelles sont quelques-unes de ces mesures?
Les forces de défense et de sécurité se sont redéployées dans la ville où elles procèdent aux fuites des véhicules, des motocyclistes. Certains ronds-points sensibles et édifices publics sont protégés. Les banques, les grandes institutions de l'État. On ne remarque pas vraiment une présence réelle autour des endroits de foule comme les marchés, d'autres lieux publics très fréquentés.
On parle aussi d'une interdiction des véhicules aux vitres fumées et du port du Chech notamment.
Donc ça, ce sont des mesures à effet d'annonce, hein, parce que depuis 1992-13, à ma connaissance, il a été souligné plusieurs fois aux membres du gouvernement que la circulation des véhicules sans immatriculation et le port de Chech était un danger pour la sécurité. Et donc le gouvernement n'a pas pris les décisions qu'il faut. Parfois, il prend des décisions. 2 jours après, ils reviennent sur cette décision. Et donc, ce n'est pas maintenant, à la suite de ces attentats-là, que ces mesures seront réactualisées et seront efficaces.
Galigata Ngoté, un député de l'opposition tchadienne, joint N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Retour aux États-Unis, à Washington. Les récents cas de l'athlète Bruce Jenner et de l'activiste des droits civiques, Rachel Dolezal, ont provoqué un débat sur le droit d'une personne à changer d'identité. Jenner, un homme, s'est transformé en femme et Dolezal se faisait passer pour une noire jusqu'à ce que ses propres parents révèlent qu'elle est en réalité blanche. Cette révélation a entraîné sa démission lundi de la tête d'une branche locale de la NAACP dans l'état de Washington, alors que la transformation de Jenner a été généralement bien accueillie. Idrissa Seydoudia fait le point.
La NAACP, pour rappel, est la plus vieille organisation américaine de défense des droits civiques aux États-Unis. Dans une interview exclusive à Today, un programme de la chaîne de télévision NBC, Dolezal a déclaré qu'elle s'est toujours identifiée comme noire depuis sa tendre enfance.
Je dirais que cela a commencé vers l'âge de 5 ans. Je me dessinais avec un crayon marron, pas un crayon couleur pêche, et avec des cheveux noirs bouclés.
Il faut dire aussi qu'elle a grandi avec certains enfants noirs que ses parents avaient adoptés. Par ailleurs, elle a, avec son mari, qui est noir, deux garçons. Et elle enseigne la culture africaine-américaine à une université d'État de Washington. Rachel Dolezal a changé d'apparence pour correspondre avec ce qu'elle sent être son identité noire. Mais la découverte de sa vraie identité blanche a rendu furieux beaucoup de gens qui trouvent qu'en se faisant passer pour une noire, elle a injustement exploité la situation pour se procurer des avantages réservés aux minorités en Amérique. Greg Carr est président du département études afro-américaines à l'Université Howard, ici à Washington.
Madame Dolezal, pour parler comme certains universitaires ici aux États-Unis, semble avoir soutiré tout ce qu'elle pouvait du fait d'être noire, mais sans en assumer le fardeau inhérent. Maintenant, il semble que le fait qu'elle est blanche menace l'authenticité qu'elle pourrait avoir construite dans sa propre vie.
Quant à Bruce Jenner, un champion olympique, il a été marié 3 fois et a eu 6 enfants. Mais cette année, il a complété sa métamorphose en devenant Caitlyn, dont la photo a eu droit à la couverture du magazine Vanity Fair. La réaction a été généralement positive pour Bruce. Mais les sociologues invitent à la prudence et soulignent que les changements en question ne rendront pas la vie plus facile ni pour Jenner ni pour Dolezal. Rachel Dolezal, comme beaucoup d'autres personnes, croit que l'on devrait avoir le droit de choisir son identification raciale ou autre. Le cas du transgenre Bruce Jenner semble en tout cas avoir inauguré une ère de plus grande tolérance aux États-Unis, tandis que le débat sur le choix personnel d'une identification raciale ne fait que commencer.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Que signifie l'affaire Omar El-Béchir pour les relations entre les systèmes judiciaires et les pouvoirs en Afrique? Le gouvernement sud-africain a-t-il violé la constitution en laissant le président soudanais quitter son sol alors qu'Omar El-Béchir est recherché pour génocide par la CPI? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
La seconde édition du Yali s'ouvre vendredi, ici aux États-Unis. Ce programme du président Barack Obama, qui durera jusqu'au 6 août, propose de former 500 jeunes leaders africains. Les candidats retenus suivront des cours dans des universités américaines. Certains pourront même faire des stages au pays de l'oncle Sam. Et cette année, 7 jeunes Burundais ont été retenus. Notre envoyé spécial à Bujumbura, Bagassi Koura, a rencontré Mireille Kayeye, 27 ans. Ses attentes à la veille de son départ pour les États-Unis.
Je suis très ravie. Je me réjouis en fait de faire partie de ces 7 qui vont partir aux États-Unis. Je serai basée à l'Université de Virginie pour le track de Civic Leadership. Et j'ai hâte de rencontrer les autres jeunes qui vont y être. J'ai hâte de faire des connaissances. J'ai hâte d'apprendre surtout parce que je me dis que notre pays a besoin de leaders. Et je suis prête à devenir un grand leader ici dans mon pays quand je serai de retour.
Vous allez avoir la chance de croiser le président Barack Obama. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire?
Oui, la dernière semaine, semaine du fellowship, c'est-à-dire au début du mois d'août, nous allons être dans un sommet avec Obama. C'est-à-dire qu'on va rencontrer Michel et Barack. Et ce que je lui demanderai d'abord, ce serait de faire un tour au Burundi. Je pense qu'on a besoin de lui. Et je vais aussi lui poser une ou deux autres questions concernant comment est-ce que l'Afrique pourrait briller comme il faut, en fait. Parce ouais. qu'il nous tarde à le faire.
Comment se porte la jeunesse burundaise, à votre avis?
C'est une jeunesse qui est très déçue. C'est une jeunesse amère maintenant parce que d'abord, il y a un grand taux de chômage, il y a un problème d'université, nous n'avons pas de professeurs, on n'a pas de travail même si on en cherche, on est pauvre, on mendie, on n'a pas de stage, on n'a pas accès à la possibilité d'apprendre, on n'a pas d'opportunité. Donc c'est une jeunesse fatiguée. Et c'est une jeunesse qui voudrait que les choses changent. Et pour que les choses puissent changer, il faut absolument que la jeunesse se batte. C'est-à-dire à travers les associations, à travers la recherche d'opportunités. Il faut que la jeunesse apprenne à apprendre d'elle-même maintenant. Parce qu'on a vu que notre société ne nous soutient pas très facilement. C'est difficile. Et quand il y a des conflits, la jeunesse est utilisée. Par exemple, récemment dans les manifestations. Donc, on a un problème de leadership. On a besoin d'avoir des leaders. Mais en même temps, on a besoin de nous forger nous-mêmes en tant que leaders. Comme ça, ce sera facile.
Voilà, c'était Mireille Kayeye, une des participantes au Yali.
Le Sénat américain a décidé à une majorité écrasante d'interdire le recours à la torture dans les interrogatoires de terroristes présumés et d'autres suspects détenus par les États-Unis. Ce vote transforme en loi le décret du président Barack Obama qui prohibait l'utilisation de ce que les officiels américains appelaient des techniques d'interrogatoire renforcé. Les explications d'Idrissa Seydoudia.
Le vote de mardi fait suite à un rapport publié l'année dernière par la commission sénatoriale du renseignement et qui a fait l'objet d'une bombe. La commission y détaille des années d'abus abjects allant des simulations de noyade à l'alimentation détrectale, un procédé par lequel des aliments sont introduits dans l'anus de certains des détenus capturés après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ce rapport avait été rédigé par la sénatrice démocrate Dianne Feinstein, alors présidente de la commission. Elle a aussi coparrainé la proposition de loi qui assujettit toutes les agences américaines, du Pentagone à la CIA, aux techniques d'interrogatoire autorisées par un manuel de l'armée américaine.
We can recommit ourselves to the fundamental precept.
Nous pouvons renouveler notre engagement en faveur du précepte fondamental que les États-Unis ne torturent pas, sans la moindre exception, sans la moindre équivoque, pour assurer que les erreurs de notre passé ne seront plus jamais répétées. Le co-auteur de la mesure, le sénateur républicain John McCain, président de la commission de la défense et ancien prisonnier de guerre au Vietnam, a dit que sa propre expérience lui a montré que torturer des prisonniers ne produit aucun renseignement fiable.
Our enemies act without conscience. We must not.
Nos ennemis agissent sans conscience aucune. Nous ne devons pas. Nous devons continuer d'insister pour que les méthodes que nous utilisons dans ce combat pour la paix et la liberté soient toujours aussi justes et honorables que les objectifs et les idéaux que nous défendons dans cette lutte. Certains collègues républicains de M. McCain ainsi que certains candidats de son parti à la présidentielle de 2016 ne le voient pas ainsi. Ils estiment en effet que, dans certains cas extrêmes où des vies américaines sont en jeu, les autorités américaines devraient avoir une marge de manœuvre quant aux tactiques utilisées pour soutirer des informations aux terroristes présumés. Cela dit, rien ne garantit à ce stade la promulgation de cette loi. Elle a été votée comme un amendement à un énorme projet de dépenses militaires, dont certaines contre lesquelles la Maison-Blanche menace d'user de son veto, bien que l'opposition du président Barack Obama à la torture ne fasse pas l'ombre d'un doute depuis son arrivée au pouvoir.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Et cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïmard, présentation Morgane Guiriec et Nicolas Pinault.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook 24h sur 24 et notre site internet voafrique.com. Les infos, c'est à 18h temps universel.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.